Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Priscilla Ludowski.
Bonjour.
Oui, je suis très content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons aborder des thèmes tout à fait d'actualité, à savoir la mobilisation citoyenne, le regain démocratique ou encore l'urgence écologique. Priscilla, toi, tu as été révélée lors du mouvement des Gilets jaunes notamment. Tu as été présentée comme une des personnes à l'initiation de ce mouvement, notamment parce que tu as lancé une pétition en mai 2018 pour la baisse des prix du carburant à la pompe, qui a recueilli, mine de rien, plus de 1,2 million de signatures. Et depuis 2019, tu fais partie, notamment, là encore, tu es multicasquette, mais c'est l'expérience que je voulais mettre en avant, celle des Gilets citoyens, qui est un collectif informel créé donc en 2019, comme je le disais, dans le contexte du mouvement social, les fameux Gilets jaunes, mais aussi le grand débat, les marches pour le climat. On va revenir là-dessus si tu le souhaites. Mais avant que tu nous racontes tous tes projets en cours, ton parcours, moi j'aimerais bien, j'ai toujours cette curiosité, tu arrives dans une soirée, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Comment tu te présentes à ces personnes-là?
Une soirée professionnelle?
Je sais pas, tu vois, tu es face à des personnes qui ne t'ont jamais vu, qui n'ont pas entendu parler de tes projets et te disent bah, « Salut, toi, t'es Priscilla, qu'est-ce que tu fais ?» Tu leur dis quoi?
Bah, c'est vraiment une bonne question, en fait, parce que avant que je sois embarqué un peu dans tout ce mouvement et je me posais pas la question de comment je me présentais. Et enfin, voilà, je dis juste, voilà, Priscilla, enchantée, jusque-là, ça va, comme tout le monde. Mais ensuite, quand les gens vous demandent ce que vous faites et que vous êtes plus salarié, c'est vraiment une question qu'on se pose presque au même moment où on nous la pose, en fait. Parce que quand on est sur plusieurs projets, comment on se définit, en fait? Comment on se présente? Et j'ai un peu de difficulté avec ça. Donc, Je réponds jamais la même chose, en fait. Je réponds en fonction du projet qui domine au moment où on me demande ce que je fais. Et je m'en sors comme ça pour le moment.
Et là, en ce moment, c'est quoi le projet qui domine?
Alors, en ce moment, c'est le livre que j'ai sorti avec Marie Toussaint le 28 mai dernier. Donc, si on me demande sur quel projet je suis, pour l'instant, c'est ce que je réponds. Et puis, j'explique que j'en écris un autre en ce moment.
Ok, ben moi tu vois, si je te reçois dans ce nouvel épisode de 2030 Glorieuse, c'est parce que pour moi, ton métier actuel, ce serait d'être mobilisatrice citoyenne. Je sais pas, peut-être qu'il y a un autre terme qui t'est plus familier, mais tu fais partie de ces gens qui aident les citoyens à raccrocher le wagon démocratique. Est-ce que ça te va comme présentation?
Ouais, je trouve ça sympa parce que je sais pas si c'est pas trop prétentieux de dire mobilisateur ou mobilisatrice, mais en l'occurrence, effectivement, c'est ce que j'ai de faire, en tout cas. Je n'avais pas encore posé de mots dessus, donc je me contente sur les réseaux sociaux de dire militante, mais effectivement, c'est intéressant comme... ce serait intéressant d'avoir un terme défini pour lorsqu'on essaie effectivement d'être un peu le lien entre plusieurs luttes, parce que en l'occurrence, je suis assez électron libre, en fait. Souvent, quand on me présente soit à des conférences ou qu'on rentre dans des schémas qui consistent à réunir plusieurs collectifs ou plusieurs associations, bah souvent je suis seule parce que même si je suis dans des collectifs où j'ai pu travailler avec des associations, je suis pas la représentante du collectif ou de l'association en question. Donc du coup, c'est assez difficile de se de se présenter, ouais.
C'est pour ça, une des missions pour moi de ce podcast 2030 Glorieux, c'est vraiment de mettre en lumière des métiers qui sont aujourd'hui minoritaires, parfois invisibilisés et qui en fait seront normalisés d'ici quelques années. Je pense que vraiment, toi, ton rôle, il est clé. Tu le fais en plus à l'échelle nationale. J'ai la chance de t'accueillir, toi qui es vraiment une porte-étendard d'un mouvement extraordinaire. Mais je suis persuadé que la mobilisatrice citoyenne que tu es, elle aurait toute sa place aussi à une échelle peut-être plus locale, dans un quartier, dans une ville, pour faire en sorte que les citoyens se rendent compte du pouvoir qu'ils ont et puis qu'ils puissent en user de ce pouvoir. Et en fait, toi, c'est ce que tu fais à l'échelle nationale.
Ouais, carrément. Ce que j'ai essayé de faire, effectivement, on sait pas au départ comment ça va prendre, mais effectivement, c'est ce qui s'est produit et c'est ce que j'essaie de continuer à faire.
Et tu crées des liens. J'aime bien cette idée de liens et le fil rouge qu'il y a derrière tous ces liens, parce qu'on a parlé de mobilisation citoyenne. Tout à l'heure, j'utilisais le terme de regain démocratique. Tu es aussi très active sur la question écologique. Quel est le fil rouge dans toute cette expérience, notamment des trois dernières années particulièrement fortes?
Le fil rouge pour moi, c'est les inégalités sociales, le fait qu'elles sont grandissantes et surtout le fait de lier, c'est facile de dire lier les combats sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en réalité, on nous a beaucoup servi des discours qui nous ont cloisonnés. Et ça donne l'impression qu'on n'est pas concerné par ce qui se passe chez le voisin, d'un collectif à un autre. On demande peut-être du soutien, mais à aucun moment on nous invite à aller voir quelle est la problématique de l'autre pour essayer en fait de créer des ponts. Et c'est ce que j'ai voulu un petit peu faire au début du mouvement des Gilets jaunes, lorsque j'ai lancé ma pétition et que ça donnait l'impression à certains, juste en lisant le titre, que c'était juste une contestation de la mise en place de cette taxe carbone, alors qu'en fait, lorsqu'on lit le contenu, on se rend compte que l'idée, c'est de dire on peut participer tous à cet effort qui vise à aller vers la transition, mais c'est pas au détriment de certains profils et c'est pas en surfavorisant d'autres. Il faut qu'il y ait une certaine justice, et c'est un peu ce que je recherchais dans mon argumentaire en disant mais en fait, on est tous concernés. Je veux dire, l'écologie, c'est pas manger des produits bio et être vegan, ça, c'est pas ça l'écologie, c'est faire partie d'un ensemble, être un être qui fait partie d'un ensemble. Et à partir du moment où on dit qu'on veut vivre en harmonie avec les autres et que on vit dans un environnement sain, ça concerne tout le monde. Après, comment on fait pour y arriver? Et si certains portent atteinte à notre environnement direct ou indirect, les impacts sont ressentis par tous et toutes. Donc, en l'occurrence, on est tous concernés, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, en fait. Donc, je pars de là, en disant, voilà, les impacts socio-économiques des crimes environnementaux ou des mesures dites environnementales sont forts. Et si impact négatif il y a, ce sont toujours les mêmes qui sont les réceptacles, quoi. Donc, en fait, tout ça, ça touche à la question pour moi des inégalités sociales.
Oui, j'entends deux choses dans ce que tu dis. J'entends le fait déjà de la nécessité de remettre l'être humain parmi la nature et aussi la nécessité de sortir de cette écologie consumériste ou individualisante qui limite l'écologie à notre porte-monnaie.
Exactement, exactement, c'est ça. Et je pense que c'est un discours qui est servi à tort, en fait, soit par les très grands médias, et donc c'est compliqué parce que ça a amené beaucoup de gens à penser qu'elles n'avaient pas le droit de revendiquer à vivre dans un environnement plus sain ou à consommer des produits qui ne portaient pas atteinte à leur santé, et alors qu'en réalité on est directement concerné, on a droit à la parole et on a le droit d'exiger mieux, quoi. Et il faut que nous aussi, on participe à ça, parce qu'on est aussi responsable en tant que consommateur. Mais en tout cas, on nous accompagne pas dans le changement de la réflexion. On met plutôt en place des choses très punitives et qui fait que ça peut pas être bien accueilli parce que c'est pas compris.
Ouais, c'est ça. C'est non seulement punitif, mais en plus culpabilisant, avec l'impression que la responsabilité du changement repose uniquement sur les épaules des individus, des citoyens. Et c'est le titre de votre livre, hein, d'ailleurs, avec Marie Toussaint, qui est aujourd'hui députée ELV à l'échelle européenne. C'est le titre, c'est « Ensemble, nous demandons justice ». Et plus loin, pour en finir avec les violences environnementales, et c'est aux éditions Masso, tu le disais, il est sorti en mai. ce que j'aime bien dans le titre, c'est cette double lecture du fait qu'effectivement, nous devons demander justice, nous rendre compte que la violation de l'environnement, en fait, ça va à l'encontre de nos droits. Et ça, souvent, on a l'impression qu'en fait, ça va à l'encontre de notre pouvoir d'achat et c'est là où la discussion s'arrête. Et c'est aussi pour mettre un terme un peu plus fort sur justement la dégradation de l'environnement qui, pour l'instant, on le voit avec le débat récent sur la nécessité ou pas de mettre le crime d'écocide une bonne fois pour toutes dans la loi, c'est loin d'être acquis encore.
Hein. Ouais, carrément, effectivement. Le fait déjà que Marie et moi, on se soit associés sur ce projet-là, ça venait aussi tenter de continuer à démonter ce message qu'avait construit le gouvernement quand j'ai lancé ma pétition et quand Marie a participé, a initié la pétition L'Affaire du siècle. Tout de suite, le ministre, en plus, c'est le ministre de la transition écologique, en plus, qui ne percevait pas ce message qui visait à dire qu'on est tous concernés, ou alors faisait semblant de pas le comprendre, qui nous a opposé tout de suite en disant, voilà, c'est la pétition des Gilets jaunes contre celle des Gilets verts. Donc tout de suite, le message, c'était, voilà, on est ennemis. Alors qu'en fait, non. Donc on s'est réunis déjà pour... on a pu se rencontrer dans les manifs ou dans des lieux, justement, qui visaient à faire du lien, comme parce qu'on s'est rencontrés à la base, à Paris. Un lieu de rencontre de militants et justement c'était pour aussi dire on travaille ensemble avec les associations du climat etc, mais en plus on crée cet ouvrage pour vous montrer qu'il y a, c'est évident qu'il y a du lien, c'est évident que les impacts qui sont pour les populations, et non, on n'est pas l'une contre l'autre, et cette lutte, elle est pas, ces deux luttes ne sont pas opposées, c'est une seule et même lutte en fait. Et effectivement l'autre message, c'est de dire qu'effectivement, il n'y a pas de sanction. Il n'y a jamais de sanction pour ceux qui polluent plus. Il n'y a pas de sanction pour ceux qui commettent les plus grosses dégradations. Alors que nous, en tant qu'individus, quel que soit le délit, le crime, l'infraction qu'on commet, on est tout de suite poursuivi, on est très rapidement sanctionné. Ce qui ne se fait pas à l'échelle des grandes boîtes ou des profils très privilégiés. Ça, c'était le deuxième message. Et donc, ça rejoint la non-reconnaissance du crime environnemental qui est l'écocide et qui a été rejeté plusieurs fois quand il a été présenté à l'Assemblée. Mais c'est ce livre, en fait, pourquoi il relate les témoignages des militants et pourquoi il relate les luttes des militants sur certaines régions, c'est parce que ça démontre la difficulté que les collectifs, les associations, les individus ont à faire reconnaître leurs droits, à faire reconnaître le crime qui a été commis dans leur environnement direct, soit qu'il les touche dans ce qu'ils consomment, dans l'impact que ça pourrait avoir sur le long terme, mais qui ne sont pas entendus ou qui font face toujours aux mêmes problématiques. Donc ce sont toujours les mêmes responsables. Il y a un schéma qui se dessine. En plus, quand on lit le livre en entier, on se rend compte que oui, ce sont toujours les mêmes qui font obstacle, donc les organismes privés qui défendent leurs intérêts personnels, et ensuite qu'elles ont l'appui systématiquement des organes publics. Et ça, c'est un schéma qui se reproduit tout le temps, et systématiquement, ça met des années pour ces familles, ces collectifs, ces associations à obtenir des documents, à obtenir des preuves, à obtenir de la reconnaissance de tel ou tel méfait, et qui en plus peuvent être en plus intimidées, réprimandées, sanctionnées pour certaines en plus, et qui sont invisibilisées surtout, et qui en face n'arrivent jamais à faire obtenir sanctions pour ces responsables. Donc c'est le deuxième message qu'on veut faire, et puis le troisième, c'est aussi de dire qu'on aimerait que les gens qui lisent ce livre se rendent compte qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent créer des ponts. Donc on a prévu de les mettre en contact les uns avec les autres, et surtout de se rendre compte de quels outils les gens peuvent mettre en place pour avancer. Quelqu'un qui est sur une lutte peut très bien lire ce livre et se dire, ah oui, j'ai pas tenté de faire ça, ou alors beaucoup ont tenté de faire ça sert à rien, je passe à l'autre étape, quoi. Enfin, voilà, ça peut être aussi un outil.
J'entends la nécessité de stratégie et d'organisation. Tu le dis, il y a une organisation, on peut le dire, du pouvoir, on peut le dire d'intérêt privé ou politique pour maintenir le statu quo. Mais du coup, il en vient à une urgence pour nous de s'organiser aussi stratégiquement et de collaborer pour réussir à au moins équilibrer un petit peu les jeux de pression sur ces sujets. D'autant que, comme tu le disais, la situation, vraiment, en tout cas, on l'entend, et tu le disais avec François de Rugy notamment, il y a toute une stratégie qui est utilisée pour nous opposer dans les luttes et faire en sorte qu'en fait, on passe beaucoup plus d'énergie à savoir qui a raison plutôt que de faire destin commun ensemble et pour peser et changer d'échelle.
Carrément, ouais, exactement. Et c'est difficile parce qu'on n'a pas la même force de communication. Donc c'est fatigant, hein, c'est fatigant quand on entend les témoignages de certains militants qui expliquent leur parcours, quand on voit qu'il y a des gens qui sont sur le sujet depuis 30 ans, 40 ans, et que si elles avaient fait partie d'un profil beaucoup plus privilégié ou qui avait accès à pas mal de choses, le message serait plus largement entendu et plus rapidement, en fait. Hein.
Ouais, bien sûr. Toi, Priscilla, en plus, tu as une particularité, c'est que vraiment ce lien, il est présent dans toute ton action. Et donc, au moment où certains opposaient les fameux fin du monde, fin du mois, gilet jaune, gilet vert, toi, tu essayais de créer des liens. Et là, encore plus récemment, on le voit avec la question des minorités, le mouvement George Floyd qui nous vient des États-Unis et la prise de parole de plus en plus forte des personnes dites racisées en France. Toi, tu es un peu au milieu de tout ça et t'essaies de tendre plus de bras que tu n'as vraiment pour faire en sorte que toutes ces luttes, tous ces combats aillent dans le même sens, celui de la protection du vivant dans son ensemble.
Ouais, carrément. Carrément, parce que malgré tout, on vit tous effectivement dans le même environnement, mais après, on n'a pas forcément tous et toutes les mêmes difficultés au quotidien. Mais on peut quand même s'entraider, et on peut quand même, lorsqu'on n'est pas spécialisé dans un domaine et qu'on n'a pas l'expertise pour pouvoir argumenter et dire ce qui va ou ce qui ne va pas, on peut à minima soutenir ou on peut essayer d'apporter soit c'est les outils qu'on a à notre disposition, soit la force de notre réseau si on en a un. Enfin voilà, on peut aider d'une manière ou d'une autre lorsqu'on sait qu'il y a une injustice quelque part. C'est, je pense, un minimum qu'on peut faire lorsqu'on n'est pas directement impliqué par la situation qui est dénoncée par tel ou tel collectif, mais on peut faire autrement.
Donc toi, tu dis que la vision en silo, en fait, elle est au mieux dépassée, mais pire même, pratiquement contre-productive.
Carrément. En fait, peut-être que c'est exagéré de dire carrément, parce que je comprends le besoin de se spécialiser, c'est important. C'est important pour avoir des données fiables, c'est important pour pouvoir argumenter, pour faire des débats, pour ceux qui vont vraiment dans le fond, vont jusqu'à créer des projets de loi, vont à la rencontre des politiques. Donc c'est important de se spécialiser, même d'être hyper spécialisé par moment. Mais ensuite, le risque de ça, c'est de se cloisonner, de pas savoir à un moment donné prendre du recul et de dire mais à quelle étape de mon argumentaire je peux faire des ponts avec telle autre lutte. Parce qu'au final, on peut mettre 10 luttes sur la table, on se rend bien compte que les responsables sont toujours les mêmes. Et c'est ce qui s'est passé au début du mouvement des Gilets jaunes. Lorsqu'il y a eu des actions qui ont été faites par certains groupes partout en France, d'aller se situer devant des sociétés comme Amazon ou comme d'autres à la Défense, etc., enfin des sociétés du CAC 40, à un moment donné, ils se sont retrouvés sur les mêmes lieux de contestation que des associations de défense et d'environnement. Ils étaient au même endroit physiquement sans s'être concertés. Et donc après, ce que ça démontre, c'est qu'en fait, les responsables sont toujours les mêmes. Et donc à un moment donné, il faut bien que ça y ait une jonction. Et c'est comme ça qu'il y a eu des rencontres de terrain et que les gens se sont liés et se sont dit « Ah oui, mais en fait, ceux qui nous asservissent au travail, ben, ce sont ceux aussi qui ne payent pas leurs impôts. Ah tiens, ben, ce sont ceux qui polluent le plus. Ah ben tiens, ce sont ceux qui font ceci. Ben, » Et au final, ce sont les mêmes responsables, en fait. Donc on se rend compte que oui, faut à un moment donné sortir de sa coquille et voir où on peut créer les points.
Et on n'a même pas encore parlé de la place de la femme non plus dans ces entreprises, souvent sous-payées alors qu'elles ont des postes clés.
Exactement, exactement, ouais. C'est encore une lutte un aspect qui pouvait faire jonction avec certains syndicats qui pouvaient se s'emparer de cette lutte au sein des corps de métier et au sein aussi des associations de défense des droits de la femme.
Dernière question sur cette partie de ton engagement, Priscilla, qui est très riche. J'aimerais t'entendre sur la Convention citoyenne pour le climat, déjà sur la qualité de l'initiative, sur les 149 propositions qui sont ressorties de cette convention, de ces 150 citoyens, mais aussi après, forcément, sur l'accueil d'Emmanuel Macron et la suite que tu vois à cette initiative.
Alors, ce que je pense de cette initiative, c'est que... Alors, je suis intéressé par tout ce qui permet en tant que citoyen d'avoir plus de voix en dehors des votes, des échéances de votes. Donc, tout outil démocratique qui permet de se faire entendre sans avoir nécessairement à aller dans la rue, je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que moi, je soutiens toutes les initiatives qui visent à créer des assemblées citoyennes parce que c'est un moyen de s'intéresser, de se former, d'avoir des renseignements et de s'intéresser à la vie politique sans pour autant revendiquer un parti ou être obligé de se conformer à un discours qu'on aurait été obligé de suivre parce qu'on aurait été encarté ou quoi. Là, ça appelle à l'intelligence collective, en fait, parce qu'on vous donne un état des lieux, on vous dit voilà ce qui se passe, voilà ceux qui ne qui sont d'accord avec ça, voici ceux qui ne sont pas d'accord et voici ceux qui sont un petit peu entre les deux. On veut arriver à cet objectif-là et qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, il y a une montée en compétence de ces des personnes qui sont choisies. Alors, ça peut poser des questions parce qu'on parle beaucoup de oui, est-ce que ces personnes qui sont tirées au sort sont légitimes ou pas? Mais moi, je pense que c'est, sachant que c'est inédit en France, que ça n'était jamais arrivé avant, que ça a été plutôt observé à l'étranger et que au bout d'un moment, il faut bien se lancer. Donc, effectivement, c'est la première, ce sera peut-être pas la dernière, mais ça peut toujours être amélioré de toute façon. Mais le fait, moi, d'avoir commencé par une pétition, j'en ai pas fait qu'une. C'est mon moyen d'expression privilégié parce que j'en ai fait plusieurs. Donc le fait, en tant que citoyen, d'apporter son avis, d'essayer de lancer un débat public, c'est tout ce qui m'intéresse aussi. Donc le fait que des citoyens puissent travailler sur ça, proposer des choses, etc., pour moi, c'est productif autant pour eux-mêmes que pour ce que ça pourrait apporter à la société. Parce que oui, ils n'auront pas été élus, mais ça peut être aussi complémentaire avec ce qui se fait par les élus qui sont très spécialisés aussi, ou par les experts qui ont été auditionnés qui sont hyper spécialisés, d'avoir un regard extérieur, avoir du recul et surtout avoir l'avis des gens qui sont directement impactés par ce qui est fait par les experts. Donc tout ça pour moi c'est complémentaire et je pense qu'aujourd'hui il faut accepter pour les personnes qui sont contre, moi ce que je leur envoie comme message c'est qu'il faut savoir accepter au bout d'un moment que les choses puissent évoluer et qu'il y a une forte demande de participation citoyenne. Ça, faut l'accepter parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est dit ouvertement et ça a donné lieu à la création de cette assemblée, mais qui est née dans un contexte de mouvement social, parce que si on avait demandé en dehors d'un contexte de mouvement social, je suis pratiquement sûr qu'on n'aurait jamais pu faire créer cette assemblée. Donc déjà, ça montre qu'il faut quand même monter au créneau pour essayer d'avoir quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais en plus, ça s'exprimait déjà avant, il fallait être aveugle pour pas voir que les gens se désintéressaient. Avec le taux d'abstention et le taux de vote blanc, il est majoritaire sur tous les taux d'élection des présidents successifs. Donc quand on observe ça, on est censé pouvoir se dire « Ok, il y a un truc qui va pas, comment on va faire pour essayer de faire en sorte que les gens se réintéressent à la vie politique et aient confiance ?» Et quand on propose de mettre en place des outils tels que le RIC révocatoire ou des choses comme ça, tout de suite ils sont contre. Quand on propose le RIC... dans sa globalité, ils sont contre parce que ce sont des outils de contrôle, des outils qui permettent de participer davantage. Et ils sont très attachés à au système de représentativité tel qu'il existe aujourd'hui. Donc ce que je trouve intéressant avec l'Assemblée citoyenne, c'est ça. C'est le fait qu'ils puissent, à un moment donné, dire, voilà, nous, on n'a pas la prétention d'être experts, mais par contre, on a une transversalité qui n'est pas négligeable dans ce que représente l'Assemblée dans son ensemble. Ça aurait pu être après différent sur ce qui aurait été proposé à la fin, c'est-à-dire que là, l'Assemblée, elle était fixée sur un plan global, ce qui était un travail très compliqué, parce que même si on dit on vous demande de faire des mesures dans un aspect de justice sociale, c'était la première fois qu'on incluait la notion de justice sociale dans un processus qui visait à réduire de au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre. On n'avait pas, avant ça, pensé ça avec la justice sociale. Là, ça a été la première fois qu'on a voulu impliquer cette notion. Et ensuite, le fait de dire oui, on propose un ensemble de mesures, c'est inédit parce que ce qui s'est fait à l'étranger, ça portait sur une ou deux choses. Là, on demandait à créer un plan complet à des personnes qui n'avaient jamais bossé sur le sujet. Et en l'occurrence, elles avaient après pour mission de dire ça, on pense que ça devrait aller au Parlement, ça devrait être une règle. Et puis ça, on aimerait avoir l'avis de la population. Donc ça déclencherait en plus un débat public encore plus grand, en fait. Et c'est ce que je pense on devrait déjà faire régulièrement. C'est-à-dire que le référendum en lui-même n'a jamais été proposé avant ça. Enfin, il y a eu en fait Sarkozy qui l'avait fait, mais qui s'est pas soucié du résultat. Mais c'est ça le problème d'ailleurs, c'est que au bout d'un moment, vous avez des outils très limités démocratiques qui vous permettent de consulter la population, mais vous le faites pas. Et quand vous le faites, vous suivez pas ce qui a été proposé. Donc du coup, c'est normal, c'était prévisible qu'il y ait cette forte demande de participation citoyenne qui se traduise par ce dispositif, quoi.
On voit qu'en fait, non seulement effectivement, c'est une question de récurrence de ces moyens de solliciter l'avis et d'impliquer les citoyens dans la vie démocratique, mais c'est aussi le fait de pousser le jeu jusqu'au bout. Là, en l'occurrence, la pente était quand même très savonneuse hein, pour les 150 citoyens tirés au sort, parce que, comme tu le dis, le sujet était très complexe, il y avait vraiment une vision très globale, 40% de réduction, des sujets économiques, des sujets sociaux. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de risques qu'ils se plantent que ce qu'ils ont réussi finalement à faire. On voit cependant une certaine manière Emmanuel Macron essayer de ménager la chèvre et le chou sans trop s'engager et se compromettre sur les deux prochaines années de son mandat par rapport aux propositions qui ont été faites. Et les deux, trois propositions qui auraient pu vraiment être engageantes et clivantes, il les a balayées rapidement en fait. Hein.
Ouais, carrément. Je pense qu'il s'est traumatisé par la taxe carbone, donc il ne veut pas se lancer dans les 110 km/h. C'est ce qu'il a laissé entendre un petit peu en disant qu'il n'était pas pour. Aussi, je ne m'attendais pas à ce que le président accepte tout sans filtre comme il était censé le faire. Ça, c'était le petit bémol que j'avais là-dessus. Mais ça a le mérite en tout cas d'avoir pu émerger, d'avoir créé un débat dans la société encore une fois après le mouvement des Gilets jaunes. Ce sera pas terminé puisque les 150 se sont constitués en association pour justement garder un œil sur leurs travaux et voir où ça va mener et mettre un petit peu des alertes. Nous, dans le collectif des Gilets citoyens et avec toutes les organisations soutien, on continue à communiquer sur le sujet pour continuer à créer du débat parce que je pense que depuis l'année dernière, on n'a jamais autant parlé du climat. Je pense que c'est important de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et surtout, on avait demandé à ce que ce soit créé sur le climat, la fiscalité, la démocratie. Donc, je pense, et d'ailleurs, le président en a parlé à un moment donné en disant, on devrait peut-être aussi penser à réformer la fiscalité, mais dans 2 ans. Donc, bon. Et ça laisse entendre quand même que notre message est passé, comme quoi on avait envie de changer les choses.
Et peut-être en demandant l'avis de citoyens tirés au sort à nouveau, de nouvelles formules de conventions citoyennes qui seront cette fois pour la justice sociale, mais aussi peut-être pour le grand âge. Il y a plein de sujets comme ça en France qui méritent d'être traités. Priscilla, on pourrait en parler pendant 1 heure. Hein. Franchement, tu as une vision en plus très, très holistique, toi, de ces sujets et cette capacité à passer d'un sujet politique à un sujet social, à un sujet écologique, c'est passionnant. Moi, j'ai vraiment envie de t'entendre partir en 2030 glorieuse avec moi et de voir justement comment tu te projettes dans ces utopies réalistes. Avant, on fait une petite bulle, un petit cadeau que nous offre à chaque fois l'invité en lisant une fenêtre de littérature qui l'inspire, parce que dans nos romans, voilà, il y a tout un tas de pistes qui montrent à quoi pourraient ressembler les mondes de demain. Et je voulais que toi, tu nous partages une utopie qui a particulièrement résonné en toi.
Alors donc, je vais vous lire un extrait du livre « Mélangeons-nous » d'un philosophe et compositeur qui s'appelle Vincent Céspedes. Donc voilà, il nous invite en fait à parcourir un peu plusieurs idées visant à parler des rapports humains. Et on a l'impression quand on entend « Mélangeons-nous » que c'est juste la discussion avec une personne et que c'est aussi simple. Mais en fait, non, ça, c'est vraiment intéressant de voir tous les angles qu'il prend pour parler du fait de se mélanger. Le paradoxe de la globalisation tient au fait que dans nos sociétés, soi-disant plus ouvertes, densification des échanges, circulation instantanée des messages, des images et des signes, les individus se mélangent bien moins qu'avant. Comme si, mise en péril, la tradition incestueuse des nations, qui fusionne les nationaux et dissocie les non-nationaux, avait déserté les discours patriotiques d'antan pour secrètement renaître en chacun d'entre nous. Vieux venin infectant nos rapports à l'autre, au même et à nous-mêmes. L'identité fluide nous effraierait-elle davantage, autant que la fluidité des communications? Peur d'une dissémination incontrôlable de notre « je » éparpillé aux quatre vents. Ou encore peur d'une invasion de l'extériorité au plus fondamental de nous-mêmes. L'homme moyen, de nos jours, éprouve son identité grâce à son sentiment d'appartenance à une nation, plutôt qu'en se sachant fils d'un homme. L'objectivité de son raisonnement est faussée par cette fixation. Il juge, selon des critères différents, les membres de son propre clan, et l'étranger, entre guillemets, et ses sentiments envers ce dernier sont également déformés. Ceux qui ne lui sont pas familiers, entre guillemets, par les liens du sang et du sol, c'est-à-dire en fait par la langue, les coutumes, la nourriture, les chants, etc., ils les considèrent avec méfiance et des erreurs de type paranoïaque peuvent naître à leur sujet à la moindre provocation. Seul le mélange nous humanise. L'inceste, lui, mène tôt ou tard à l'injustice, à la stagnation et à la disgrâce culturelle. Une humanisation accomplie consiste donc à devenir mixophile, et pour cela, à nous affranchir de la plus impérieuse forme d'inceste qui soit, la fétichisation de l'appartenance au sol ou au sang. Le nationalisme est notre forme d'inceste, notre idolâtrie, notre folie. Le patriotisme en est le culte. Se libérer, naître en tant qu'être humain, épanouir ses capacités d'amour et de raison, s'expérimenter soi-même et expérimenter autrui dans sa véritable et humaine réalité, nous absorbons les films, les récits criminels, les alcools, les distractions. Nous n'y participons pas de façon active, nous ne vivons pas d'expériences unifiantes, ni d'actes capables de donner une signification à nos vies. Sans mélange, donc, nous vivons sur le mode de l'avoir et non de l'être. Autrement dit, sur le mode du procès, de la dissociation, du contrôle et finalement de la mixophobie, de la peur de trop nous impliquer dans la relation à l'autre, d'y mettre du nôtre en lui, de laisser entrer son sien en nous. C'est au fond la fusion qui terrifie.
Merci Priscilla. Tu nous présentes le mélange comme une richesse avec ce passage.
Oui, exactement. Et c'est un passage que j'aime bien parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, lorsque je dis qu'on ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe chez son voisin parce qu'on est très, très auto-centré, en fait, sur notre bien-être déjà, mais qui, en fait, est mis à mal par des comportements plus violents commis par d'autres profils, plus puissants. Et on est dans la survie constante. Les premiers besoins, se nourrir, se loger, c'est ce qui nous obsède, en fait. Et alors que, et on a peur de l'autre, on a peur de ce qu'il pourrait faire pour venir bousculer notre quotidien, alors qu'on devrait être dans l'échange, quoi.
On va essayer de dépasser ça, ce constat terrible. On va essayer de laisser tout ça derrière nous. C'est pas évident, nous, en plus, Français, hein, on n'est pas les rois de l'optimisme, les rois de la projection hein, heureuse et du bonheur. Mais j'aimerais bien qu'on fasse cet exercice-là ensemble pendant une quinzaine de minutes, Priscilla, s'il te plaît. Partons ensemble en 2030 glorieuse. On vit dans un monde, ça y est, en 2030, où nous avons réussi. Je ne sais pas ce que nous avons réussi, c'est à toi de me le dire. Mais si tu fermes les yeux là et que tu te projettes dans ces utopies réalistes, qu'est-ce que tu vois quand tu les rouvres tes yeux ?
Alors, je vois que dès le plus jeune âge, on nous apprend à apprécier l'environnement dans lequel on vit, qu'on nous apprend à disposer de ce que la nature a à nous proposer. Donc, je pense à l'apprentissage de ce que peut nous apporter la terre, donc par les fruits et légumes et par les plantes médicinales, qu'on apprenne à prendre soin de soi, qu'on apprenne en fait dès le plus jeune âge à être autonome pour se répondre à nos besoins physiologiques. C'est ce que je vois, et je vois qu'ensuite on nous apprend à quand même qu'on fait partie d'un ensemble, d'une société, et que dans cette société on doit pouvoir avoir le droit d'exprimer ce qu'on pense qui peut améliorer cette société, quand bien même on serait dans une société idéale, qu'on doit pouvoir participer régulièrement, si on le souhaite. Je vois aussi de l'égalité pour tous. Tous les profils devraient avoir droit à ce type d'instruction et droit à choisir son parcours de vie, en fait. Qu'il soit dans cette société ou en dehors, on doit pouvoir avoir le droit de choisir. Je vois aussi l'importance que ça peut avoir de dire la vérité sur les faits historiques, d'avoir la connaissance de ces faits historiques et que toutes les blessures qui ont pu être commises dans le passé soient reconnues et compensées, ou alors qu'il y ait une reconnaissance en tout cas, et des réparations, parce que c'est pour moi d'une absolue nécessité pour avancer tant individuellement que collectivement et pour l'interaction avec les autres. Je vois un droit de pouvoir être traité comme tout le monde dans un corps tel que le monde du travail. Si on décide d'être dans le système, dans la société, bien pensée, bienveillante, qu'on soit tous traités de la même manière dans ces structures, et d'avoir la possibilité à tout moment d'avoir des garde-fous, c'est-à-dire de créer des outils qui nous permettent de toujours pouvoir contrôler ceux à qui on aurait décidé de donner plus de cordes à leur arc pour pouvoir piloter les choses.
J'entends beaucoup dans ce que tu dis, Priscilla. C'est un mot français un peu barbare hein, qu'on utilise assez peu. En général, on utilise le mot anglais « empowerment ». Mais toi, tu parles en fait finalement d'encapacitation. C'est comment redonner à l'individu les rênes de son destin individuellement, tu l'as dit, sur la question de l'autonomie, de l'alimentation, de la santé, et ensuite collectivement avec un contrôle plus fort des organes qui permettent d'organiser la vie de l'État. Et donc en creux, c'est sortir un peu du mode de pilote automatique dans lequel on était, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 2020, où on passait un peu notre vie à chasser le pouvoir d'achat ou les augmentations ou une carrière un peu plus, étourdissante en fait, plutôt que de vraiment notre pouvoir de décider.
Ouais, c'est tout à fait ça. On nous a conditionnés dès le plus jeune âge pour être dans cette optique-là, en fait. Parce qu'on nous dit, voilà, il faut aller dans telle filière, après ça, tu cherches du travail, et puis après, comme tout augmente, eh bien, il faut que tu ailles à la chasse au meilleur poste pour pouvoir toucher plus.
Ça, c'est ce qu'on nous disait en 2020. Mais en 2030, cette incapacitation, elle est au cœur de notre éducation, de notre éducation même en tant que citoyen, j'ai l'impression. Comment ça marche ?
Comment ça marche ? Alors, je pense que c'est difficile à dire comment ça marche, parce qu'on nous a tellement pas conditionnés pour réfléchir de cette manière que je sais que j'aimerais que ce soit le cas. Après, dire comment ça marche, ce serait difficile à dire. Il faudrait qu'on soit pas uniquement dépendant de l'argent. Je pense que l'argent a un gros rôle à jouer là-dedans, dans le fait qu'on soit hyper dépendant et qu'on pense pas suffisamment à soi. Il y a quelque chose à faire avec ce qu'on touche régulièrement, en fait, comme sous, et ce à quoi ça doit nous servir. Il faudrait qu'on soit pas dépendant de l'argent pour vivre simplement dans un environnement. Il faudrait que ce qu'on touche nous permette de faire des loisirs, nous permette d'avoir des extras au-dessus de ces basiques, mais c'est pas le cas aujourd'hui, mais ce serait bien que voilà qu'on puisse
donc un revenu universel.
Un revenu universel, oui, ça fait partie des choses qui nous permettraient de dire voilà, on a un minimum pour vivre, et à côté, si on veut faire plus, c'est parce qu'on aspire à plus, mais si on n'aspire pas à plus, on devrait pouvoir avoir le droit de choisir. Il y a un droit fondamental que moi me tient à cœur particulièrement, c'est aussi le droit de circuler. Je pense qu'on a beaucoup de divisions qui naissent du fait qu'on soit pas, pour moi, on est censé être citoyen du monde, et c'est vrai que les contextes géopolitiques font qu'on a des frontières, mais on devrait pouvoir réfléchir à une autre manière d'habiter, de cohabiter avec les citoyens du monde.
Ouais, c'est sûr que c'est totalement fou de se dire que en fonction de l'endroit sur Terre où on est, nous n'aurons pas la même capacité à circuler, et parce que notre pouvoir d'achat nous limitera souvent l'accès à des transports, et de deux, parce que en fait, le passeport qu'on a, ou parfois qu'on n'arrive même pas à avoir, nous limitera dans le fait de franchir telle ou telle frontière.
Carrément, et encore une fois, on est sur tout ce que je dis, il y a des inégalités en fait. Et là, en l'occurrence, on a encore une autre, tout le monde n'a pas... On voit encore que l'argent a son mot à dire dans cette manière de circuler et de cohabiter avec les gens. Je veux dire, y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème, et d'autres effectivement qui n'auront pas la chance de pouvoir aller s'enrichir par le partage avec d'autres cultures, et le droit de pouvoir aller habiter du jour au lendemain à 10 000 km et de revenir. C'est pas tout déconditionné par l'administration, les sous et les enjeux, quoi.
Et au niveau démocratique, alors ce fameux regain démocratique, 10 ans plus tard, en 2030 glorieuse, toi qui as les deux pieds dedans, hein, tu étais déjà très impliqué dans ce domaine en 2020, à quoi ça ressemble ? On est passé à la 6e République, le référendum d'initiative citoyenne est devenu un outil presque commun. À quoi ressemble la société où le citoyen est actif et proactif au niveau démocratique?
Ouais, j'imagine effectivement qu'on ait ces assemblées citoyennes qui soient permanentes et qui seraient amenées à travailler sur des sujets, mais très régulièrement. Qu'on ait moitié moins de députés, mais que ce soit voilà, en cohabitation avec ces citoyens régulièrement. Qu'on ait, qu'il n'y ait pas de ministère de l'écologie, mais qu'il y ait de l'écologie dans tous les ministères, puisque c'est un sujet qui est transversal, en fait. Donc, qu'on détruit cette pensée et qu'on le saupoudre un peu partout, qu'on ait effectivement ce référendum d'initiative citoyenne important, qu'on n'ait plus à autant manifester, en fait. L'idéal, c'est qu'on ne manifeste plus, mais voilà, si on veut réduire ça au maximum, il faudrait qu'on ait ces outils démocratiques.
Non, mais attends, ça serait terrible, tu imagines ? 2030 glorieuse, un monde où les Français ne pourraient plus manifester ? Ils n'auraient plus de raison de manifester, mais ils trouveraient toujours une raison de manifester.
Ouais, c'est un monde où on peut révoquer les élus et le président, un monde où on peut sanctionner et qu'il n'y ait aucune sorte d'immunité que ce soit pour qui que ce soit, en fait. Moi, je ne comprends pas le système de l'immunité, je ne comprends pas que pénalement le président ne soit pas attaquable, c'est du grand n'importe quoi. C'est celui qui a le plus de... Enfin, avec le Parlement, ils ont le plus de pouvoir, donc le plus de pouvoir de faire autant de bien que de mal. Donc c'est ceux qui devraient avoir le plus haut niveau de contrôle et de sanctions, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc oui, le côté démocratique, c'est et de pouvoir avoir accès aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'individu, mais si on parle côté collectif, les petites sociétés qui peinent à faire avancer leur structure n'ont pas la même force de frappe de communication envers la population. Donc c'est aussi un problème, on va dire, démocratique, mais lié plus au business, où ce sont toujours les mêmes aussi qui ont accès au grand public. On dit qu'il y a beaucoup de publicité, mais elle concerne toujours les mêmes, c'est pareil. Les gens sont attirés par ce qu'on leur propose et ce qu'on leur montre, et ils se détournent des circuits courts parce qu'on leur montre toujours qu'il y a du Carrefour, il y a du Auchan, il y a du Leclerc, et ceci, quoi. Parce que c'est beaucoup trop cher d'accéder à la publicité des grands médias, parce que c'est volontairement très élevé pour que ce soit accessible toujours quand même.
Et toi, en 2030 Glorieuse, Priscilla, qu'est-ce que tu fais ?
Bonne question. Je sais pas, en 2030, j'espère avoir me trouver dans un lieu où j'aurai gagné un peu plus en autonomie. En même temps, c'est assez effrayant de vivre en marge, donc je suis un peu mélangé, c'est le cas de le dire, vu que je viens de lire un passage d'un livre qui s'appelle Mélangeons-nous. Mais c'est assez difficile de se projeter dans ce qu'on pense pas qu'il puisse arriver, en fait.
Parce que du coup, pour l'instant, en fait, quand on regarde 2020, pour toi, 2020, t'étais en lutte, hein, pour la justice, tu menais des combats. T'as l'impression qu'un monde en 2030 glorieuse, où finalement, il y aurait eu beaucoup plus d'acquis, beaucoup plus de victoires, un monde durable, un monde équitable, ça serait quelque chose pour toi qui t'obligerait à te repositionner, à te re-questionner sur ton sens, sur ton utilité ?
Ouais, clairement. Je pense que déjà, le fait d'être dans une transition pour que ce soit démocratique, que ce soit, on dit écologique, mais on se comprend, et ça force à se remettre en question soi-même. À se remettre en question soi, à remettre en question le monde dans lequel on vit, et à retrouver sa place dans tout ça, en fait. Parce que quand on est habitué et qu'on est conditionné pour, c'est difficile de se repositionner, c'est sûr. Même si demain, tout ce que je viens de dire arrivait, il faudrait reprendre ses marques et puis ensuite transmettre aux générations qui suivent ce nouveau modèle, quoi, en fait. Et c'est sûr que c'est pas évident.
On est passé du contre au pour et au avec. Là aussi, il y a une énergie qui est différente.
Ouais, carrément. Et c'est beaucoup plus facile d'arriver dans un monde tout fait que de voir la transition se faire, parce que alors c'est intéressant parce qu'on a la mémoire de l'histoire, on a la méthodologie, on a la transmission à faire après. Donc c'est intéressant, mais c'est beaucoup pour un seul individu d'encaisser tout ça. Les gens qui ont traversé les époques et qui ont vu tous les changements, c'est pas évident, hein, de trouver sa place à chaque époque, quoi.
Et en plus, tu apportes de la complexité à 2030 glorieuse. Dans ce que j'entends, tu dis que si même on avait réussi massivement à normaliser ces modes de vie durables et égalitaires, il y aurait sans doute plein de poches où ces avancées ne seraient pas aussi présentes, aussi développées. Et puis en plus, plein d'autres problèmes qui pourraient aussi émerger. Et donc en fait, c'est aussi un peu un combat ou en tout cas un travail constant.
Oui, je pense que c'est un travail constant et surtout, on parlait d'utopie. L'utopie, c'est on est dans l'idéal de ce qu'on recherche, etc. Sauf que l'utopie d'un tel n'est pas celle de l'autre. Et ça peut même être le cauchemar de l'autre. Donc, on aura toujours des obstacles et toujours des gens qui aspireront à détruire ça pour revenir à un modèle précédent. Donc, il faudra, je pense, toujours être en alerte et essayer de rester, d'avoir la tête sur les épaules et de se dire que rien n'est jamais acquis, en fait.
Oui, ça c'est sûr. La route, elle est encore longue, hein, de toute manière, avant 2030 glorieuse, Priscilla. Si on revient en 2020 et que tu t'adresses là directement aux personnes qui nous écoutent, quel serait le premier conseil, le premier pas que tu leur suggérerais pour justement commencer à se déplacer vers cette utopie réaliste dont on a parlé pendant une quinzaine de minutes ?
Le conseil que je donnerais, c'est déjà d'essayer de s'informer différemment, pour ceux qui ne le font pas, de s'informer différemment que via les médias mainstream, j'ai envie de dire, de chercher l'information par soi-même, d'aller vers des médias plus indépendants pour essayer de se faire une opinion et ne pas toujours croire et prendre pour argent comptant ce qu'on sert à la télé, de se renseigner lorsqu'il y a des luttes qui se mettent en place, de chercher à savoir pourquoi ces luttes sont mises en place, et est-ce que je suis pas concerné par ces luttes-là, et si oui, comment je suis impacté, ou comment je pourrais aider si j'avais le temps. Je pense que ça, c'est déjà deux choses que je conseillerais. Je conseillerais aussi de ne pas se détourner de la politique, parce qu'on a notre mot à dire. on est en droit de participer, on est en droit de donner notre avis. Les gens qui sont élus ne sont pas nos responsables, ce sont des personnes qui travaillent pour nous, et c'est un peu comme si un gérant de boutique ne se souciait pas de ce que faisaient ses employés. Ça n'a aucun sens.
Merci Priscilla.
Merci.
Et voilà, cet échange avec Priscilla Ludowski vient de se terminer. Un échange riche, un échange complexe qui montre qu'il y a des personnes qui ont cette conscience aiguë des multiples causes et problématiques qui en ce moment pèsent dans notre société. Priscilla, elle est montée au créneau sur la question des inégalités sociales, économiques et écologiques à travers le prétexte de la taxe carbone qui a un peu fait imploser notre pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle a voulu ensuite créer du lien, et je trouve que ça, dans l'action, l'idée de créer du lien, de rassembler les luttes, de rassembler les causes, de rassembler les énergies, c'est à mon avis une dynamique beaucoup plus vertueuse que de rester en silo, chacun dans son camp, au mieux en s'ignorant poliment, au pire en se mettant un peu des bâtons dans les roues parce qu'on a l'impression de se faire concurrence. Et Priscilla, elle n'est pas du tout là-dedans, elle est dans une énergie du rassemblement. Et puis en plus, j'utilisais ce mot d'encapacitation, c'est pas un mot évident à dire même, mais c'est vraiment aussi quelque chose qui est clé, puisqu'elle travaille tous les jours à redonner aux citoyens le pouvoir de décider, le pouvoir de construire une société plus juste, plus durable. Et ça, c'est un travail de tous les instants qui passe par l'exemplarité, qui passe par l'éducation, mais qui passe aussi par un travail normatif plus fort. Et elle en a rapidement parlé, on aurait pu développer sur la question de l'affaire du siècle, et puis toutes ces mobilisations dans les rues, parce qu'il y a aussi une énergie du non qui derrière peut être utilisée pour créer, pour construire, pour faire plein de choses. Bref, ça me semblait hyper intéressant d'arriver à voir comment elle était à la fois dans une volonté de s'opposer pour dire stop à tout un tas d'exploitations, tout en arrivant à construire et à réveiller et à outiller les citoyens des mondes de demain. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Priscilla sur ces sujets. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !